Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 4 mars et il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Béatrice pour l'association Cyclo Show XY qui organise un atelier mère-fille à Mende le 23 mars prochain. On l'écoutera dans un instant, elle sera avec nous par téléphone. Et en deuxième partie d'émission, Léo avait fait l'interview des deux co-directrices de la compagnie Les Fugaces, présentes au Festival d'Olt pour leur spectacle La Ronde l'année dernière. L'une d'elles est metteuse en scène, l'autre l'actrice en solo du spectacle. Le Festival d'Olt arrive à grands pas, même si on a encore un peu de temps, puisque ce sera à partir de mai prochain. Mais un petit goût de printemps, ça fait pas de mal. Il y aura de la musique comme d'hab, et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Le Conseil d'État a ordonné à l'ARCOM, l'ancien CSA, de mesurer le pluralisme dans l'audiovisuel en tenant compte de l'ensemble des intervenants, chroniqueurs et animateurs compris. C'est plutôt bien. Mais comment veiller à l'équilibre des courants de pensée sans trop contraindre la liberté éditoriale ? Tout est la question. Imaginons, nous ici à Barthas, sommes plutôt de gauche, hein, on s'en cache pas. Est-ce que ce que je dis dans cet édito peut-il être comptabilisé si par exemple je dis du mal de l'extrême droite ou que je critique le pouvoir en place ? Est-ce que ce temps de parole doit-il être décompté des partis de gauche ? De même, si je parle d'environnement, doit-il être décompté du temps de parole des écolos ? C'est un casse-tête. Mais il est évident que faire la part belle dans les médias, que je ne citerai pas bien sûr, au parti présidentiel ou à ceux de l'extrême droite, est problématique. Attendons donc d'ici la fin de semaine le carnet de route de l'ARCOM et la manière dont il va travailler. Ça va être très intéressant, enfin, je pense. Tonight, I'm gonna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I'm gonna lay it at your feet. 'Cause I was made for you, and you were made for me. I was made for loving you, baby. Love me, and I can't get enough of you. Vous êtes bien sur Radio Bartas et nous sommes ce matin avec Béatrice, bonjour.
Bonjour.
De l'association Cyclo Show XY, merci d'être avec nous. Ce matin, nous parlons de cycle menstruel et de l'atelier que vous donnerez à Mende le samedi 23 mars. Cet atelier est proposé par l'excellente association Naître Grandir 48. Béatrice, pour commencer simplement, pouvez-vous nous présenter votre association Cyclo Show XY ?
Oui, pas de problème. Donc, cette association a été créée en France il y a 17 ans. En fait, il démarre d'un atelier créé par une dame allemande qui s'appelle Elisabeth Redpaola, qui avait créé cet atelier pour répondre aux besoins et aux demandes des jeunes filles sur ce qui se passe dans le corps de la jeune fille, toutes les transformations qui transforment son corps de petite fille en corps de femme. Et du coup, elle l'avait présenté, elle avait imaginé de manière très ludique, très belle, en même temps scientifique et poétique, avec une approche très bienveillante. Voilà. Et donc en France, ça a démarré il y a 17 ans. On est une association avec une centaine d'animateurs pour les garçons et d'animatrices pour les filles, donc 100 en tout. Et que dire d'autre ? Donc on propose cet atelier en collège et dans le cadre privé, si on peut dire, enfin voilà, comme l'atelier qui aura lieu à Mende très bientôt. Et donc il s'adresse aux jeunes filles de 10 à 14 ans et à leur maman, parce qu'en fait c'est vraiment un soutien à la parentalité. Donc très intéressant pour aider les mamans qui sont des fois un peu perdues pour expliquer à leurs filles ce qui se passe. Et puis trouver des mots communs, s'émerveiller ensemble pour ensuite la suite de la puberté, toutes les questions que se posera la jeune fille plus tard. Voilà.
On va reparler de cet atelier. On en parlait avec ma compagne il y a quelques jours, quand elle était ado, il y a une vingtaine d'années. C'était tabou chez elle, bien que sa mère l'ait aidé un peu, mais elles en ont très peu parlé. Donc voilà, est-ce que vous voyez les mentalités évoluer ou est-ce que parler de cycles menstruels, de règles, de changements corporels, c'est encore compliqué aujourd'hui ?
Eh bien, en fait, c'est compliqué pour certaines femmes, les mamans, pour certaines mamans, mais la parole se libère vraiment. Donc ça, c'est génial, parce que les mamans trouvent du soutien, parce que finalement, c'est tout à fait naturel et que c'est tout simple d'accompagner. Mais quand on a les mots qui vont bien, ça va tout seul. Mais sinon, on a besoin d'apprendre, en fait, comment aider nos filles à passer ces moments-là. Et donc, oui, la parole se libère. Et vraiment, et il y a une très belle action des mamans pour expliquer ce qui se passe à leur fille.
Ouais, parce qu'en plus, c'est pas évident forcément pour elles, puisqu'elles-mêmes n'en avaient pas parlé avec leurs parents, etc. Donc,
c'est ça. Et c'était vraiment tabou à cette époque-là. Ouais.
Vous donnez également des ateliers en milieu scolaire, vous l'avez dit. Est-ce que l'école s'améliore pour parler de ces sujets-là, ou est-ce que ça pourrait encore aller mieux, pourrait encore mieux faire ?
Ah oui, on peut toujours mieux faire. Mais en tout cas, ça va bien. En fait, vraiment, les écoles prennent ce sujet à cœur et ça, c'est génial. Et ça évolue doucement. Et voilà, moi, nous, on voit vraiment une différence. Après, je trouve que quand on amène ce sujet avec de la bienveillance et de l'émerveillement, ça change tout. Et l'idée de l'atelier, c'est vraiment de ressortir en disant « mais waouh !» C'est génial, c'est génial d'être une femme, c'est génial d'être un homme.
Transition toute trouvée pour parler concrètement de cet atelier. C'est le 23 mars prochain. Concrètement, comment ça se passe un atelier avec vous ?
Alors donc c'est un atelier sur une journée. Donc j'invite les participantes à venir vers 9h45 pour prendre un thé, un café ensemble. On démarre l'atelier vers 10h. Et l'atelier se finit vers 16h30, ça dépend des moments. L'idéal, c'est d'avoir au minimum 8 duos, et puis on peut aller jusqu'à 14 duos mère-fille. Voilà. Et donc, on va de surprise en surprise avec du beau matériel que les filles vont manipuler, ce qui fait qu'elles s'approprient vraiment les notions, les mots, elles comprennent le rôle des hormones, et du coup tous les sens sont appelés. Il y a de la musique, il y a des surprises, il y a des très beaux tissus, des belles couleurs, des panneaux pour qu'elles comprennent et qu'elles s'approprient le message et qu'elles sachent ce qui se passe dans leur corps avec les vrais mots scientifiques.
Quelles sont les plus grandes interrogations auxquelles vous devez répondre ?
Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux règles. Donc, on a un temps vraiment spécifique pour parler des règles. Et là, elles sont toutes contentes parce qu'on répond à toutes leurs questions. Voilà, après, ben, l'atelier est en fait assez complet pour aborder beaucoup de questions. Et puis ensuite, elles en ont parfois en plus dans des cas spécifiques ou voilà.
De même que vous donnez des clés pour y répondre à ces interrogations, pour les parents, est-ce qu'il y a des choses à éviter, à ne pas dire, à ne pas faire lorsque leur enfant entre dans cette période charnière et ô combien importante qu'est l'adolescence ?
Je ne sais pas s'il y a des choses à ne pas dire, à ne pas faire, mais en tout cas, un parent, il veut toujours le meilleur pour son enfant, donc on y arrive. Et puis des fois, on est maladroit, mais voilà, ça, c'est pas grave. Et l'important, c'est de trouver de l'aide là où on peut, de trouver des mots, d'autres personnes qui passent ce moment. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment l'importance du groupe, du soutien de femme à femme. Ça, c'est génial.
Mais de même, vous, dans les ateliers que vous donnez, pour parler de ces sujets-là, il faut que vous-même, vous soyez d'une bienveillance assez incroyable là-dessus, non ?
Oui, c'est sûr que l'idéal, c'est ça. Après, on fait ce qu'on peut. Non, mais ça se passe très bien. Donc, ça doit aller. Non, mais c'est vrai qu'en fait, voilà, il y a des filles qui arrivent qui sont super stressées parce qu'elles se demandent ce qu'on va leur demander. Et vraiment, donc, on les met très à l'aise tout de suite en disant, on va rien demander d'intime de ce qui se passe dans ton corps à toi. En fait, on parle en général. Donc vas-y, détends-toi, tu vas voir. On te parle juste de ce qui se passe dans le corps d'une jeune fille. Et toi, tu prends ce que tu as à apprendre, ce qui est bon pour toi. Voilà.
Là, ça s'adresse aux mamans. Alors, moi, je suis un homme, hein, j'ai la chance d'avoir une compagne et on en parle beaucoup de ce genre de sujet. Est-ce que ça existe des ateliers comme ça qui s'adressent aux papas et aux jeunes filles ?
Alors, papa, jeune fille, non. En fait, c'est papa et garçon. Mmh. Et en tout cas, pour notre association. Mais je pense que j'ai entendu dire que ça c'est en train de naître des ateliers père-fille, et ça serait génial. Nous, en tout cas, on privilégie les mamans ou ça peut être une femme référente, en fait, ça peut être une marraine, une tante, une grand-mère qui accompagne la jeune fille, parce que en fait, la parole est plus libre quand les filles sont entre filles. Et les garçons entre garçons. Et voilà, c'est pour ça qu'on privilégie ça. Mais après, on encourage vraiment les filles à continuer le dialogue avec leur papa et les hommes de leur entourage.
Est-ce que vous pensez que grâce justement à l'acceptation de ces changements corporels, de l'acceptation de son corps, l'acceptation de soi, ça peut aussi améliorer un sujet ô combien tragique aujourd'hui qui est le harcèlement scolaire ?
Oui, je pense vraiment que ça a une grande importance. Et d'ailleurs, on a des retours... très 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 net par rapport à ça. Déjà dans le milieu scolaire, les collèges nous disent qu'il y a beaucoup plus de calme et de bienveillance entre les élèves. Et puis en fait, quand on se connaît bien, eh bien on est paisible, quoi. Donc c'est vraiment l'idée, oui, de soutenir l'enfant comme ça. Et ça marche bien, c'est vrai.
C'est proposé par Naître Grandir 48 et c'est prodigué par Cyclo Show XY. C'est vous, Béatrice, qui donnerez cet atelier mère-fille. Ça se passe à la Maison Solidaire de Mende le 23 mars prochain. Le coût est bien de 30€. Hein,
voilà, en fait, l'association prend en charge 20€. Normalement, c'est 50. Et là, il y a 20€ offerts par l'association. Donc, c'est génial, il faut en profiter. Et pour vous inscrire, il faut passer par le site Cyclo Show XY France. Vous avez d'ailleurs des petites vidéos qui sont géniales pour pouvoir comprendre ce qu'on vit en atelier, qui vous sont proposées. Vous pouvez les regarder, et c'est toujours bien avant l'atelier.
Ouais, le site est super bien fait, hein, cycloshowxy.fr, et on peut voir aussi toutes les actions que vous proposez, hein, parce qu'évidemment là voilà. C'est particulier, mais vous faites aussi énormément d'autres choses.
Voilà, il y a d'autres ateliers, sur la ménopause en particulier, qui est un atelier qui vient de sortir, et qui est génial aussi.
Merci beaucoup, Béatrice.
Mais je vous en prie, merci à vous, Ben.
Avec grand plaisir et à très bientôt en Lozère. Bonne journée.
Au revoir, merci beaucoup, au revoir. Gather around the fire, boys, a story I will tell about a persecution I'm sure you don't know well. An Oklahoma tale, trading land and gems, going down a river that you can't come back up again.
Hannah Brown was killed in May of 21. They made it look like Anna was just having too much fun. Meanwhile in town they threw a big parade. There stood William Hale in the Range War that he waged. Just across the county on that very day, in a pool of blood did Charles Whitehorn lay. Charles was Anna's cousin, so was Henry Rowe, who died shortly after William Hale made him alone. William Hale had him a nephew who'd married Molly Kyle. Molly was Anna's sister and it sunk in after a while. In cities across the country, all the papers read. Reign of Terror continues, another Indian dead. Old Hickory Andrew Jackson drove him down through Tennessee. From Ohio came the Osage, the mountains Cherokee. They left him there to wither on that southern Kansas soil. But this was before the man discovered oil. If you come around here with pretty flowers to sow, you might stop and notice nobody's very old. Grass grows so high it covers up the graves, but listen for a while and it might start giving names. They called him the king of the Osage Hills. He went and got everybody killed. Now they talk about the weather like it's judgment coming soon. All the killers of the flower moon.
Vous êtes bien sur Radio Arthas. Léo avait rencontré la compagnie Fugas au Festival d'Olt en mai dernier. Retour sur leur interview.
Eh bien, je m'appelle Cécile et il y a Laura en face de moi. Et on est la compagnie Les Fugas. On est une compagnie de théâtre en espace public. On travaille beaucoup en déambulation. Et on travaille sur le théâtre de texte. On crée des spectacles avec des personnages qui parlent et qui racontent des histoires.
Tu tiens quel rôle principal dans la compagnie ?
Eh bien, on est toutes les deux co-directrices artistiques de cette compagnie. On est tour à tour selon les spectacles comédiennes, metteuses en scène et ou autrices. Et donc là, dans la création qu'on a présentée au Festival d'Olt, moi, je suis comédienne. Et Laura, tu peux dire si tu veux.
Bonjour, je suis Laura. moi, dans le spectacle, j'ai écrit et mis en scène tout ce spectacle.
Depuis combien de temps il tourne le spectacle ?
Eh ben, le spectacle, il a eu la malchance d'avoir été créé pendant le temps du Covid. Donc il devait sortir en début de saison d'Art de rue, donc en avril 2021. Mais il a été décalé fin 21. Donc il a joué quelques fois en septembre-octobre 21. Puis après, ça a joué plusieurs fois l'année dernière, une douzaine de fois, un truc comme ça. Et cette année, on a la chance de le jouer 20 fois.
C'était votre première fois en Lozère ?
Et non, c'était la première fois pour ce spectacle qui s'appelle La Ronde. Mais c'est la deuxième fois qu'on vient avec la compagnie parce que notre dernière création, Vivant, qui est aussi un spectacle en déambulation, mais avec 5 personnages en simultané qui se croisent. Et pour le coup, c'est Cécile qui l'a mis en scène et qui l'a coécrit avec une autre autrice qui s'appelle Hautschmitter. Et moi, je joue dedans avec 4 autres comédiens. Et on avait fait nos toutes premières en 2019, ici, juste avant le Covid pour le coup.
Et on est venu, avant de le jouer, on est venu en résidence quelques mois avant, accueilli par le Rude Boy Crew à Chasse-Radès. On avait fait une semaine de résidence à Chasserades avec... On avait fait de la résidence, on avait fait ce qu'on appelle nous des crash tests, ça veut dire des représentations en public du spectacle en cours de création pour le tester, parce que nos formes, elles sont tellement reliées à la présence du public qu'on ne peut pas uniquement les répéter en vase clos, on a besoin de les confronter au public et puis de voir qu'est-ce qui marche moins bien, tout ça. Donc on est venu, en 2019, on est venu deux fois. Une fois en résidence et une fois à Holt pour jouer.
Et du coup, votre compagnie se concentre exclusivement sur le théâtre de rue ?
Ouais. En fait, on a créé la compagnie en 2007. Et en 2007, on était déjà avec une forme dans la rue qui était en fixe. Mais qui était déjà... notre grande question, ça a toujours été comment on fait pour poétiser des espaces communs ? Les espaces du quotidien que tu traverses tous les jours, comment on vient y mettre de la poésie. Alors, en 2007, c'était vraiment très, très poétique. C'était vraiment un montage de textes d'auteurs contemporains, des textes qu'on avait écrits. Le montage était vraiment... Oui, vraiment très déconstruit, on va dire, très, très morcelé. Et puis après, très rapidement, on a voulu adapter le roman de Lola Lafont qui s'appelle « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ». Et on, tout de suite, très rapidement, on s'est dit oh, « c'est super, on va le faire en déambulation ». Et dès qu'on a découvert l'ampleur des possibilités d'emmener du public avec nous, de pouvoir recréer in situ systématiquement là où on va être programmé, d'emmener les gens avec nous dans une aventure. En fait, nous, c'est un truc qu'on aime bien dire, puis on aime bien vivre ça. C'est emmener les gens avec nous, vivre... une aventure, et on trouve qu'en avançant, en bougeant tous ensemble, tu rends le spectateur actif, il est actif avec toi, et il y a une espèce de donnant-donnant qui se fait entre la comédienne et puis le public.
C'est sûr que vous êtes totalement approprié le Blémard. Comment dire, le spectacle, il s'est incorporé extrêmement bien dedans. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes à un moment pour avoir certains lieux. Mais du début à la fin, ça circule bien, les endroits sont bien choisis.
Du coup, oui, on fait toujours un repérage en amont. Et alors, je te laisse imaginer comment ça... C'est un autre casse-tête pour le spectacle précédent, vivant qu'il y a cinq parcours en simultané dans les 3-4 rues du Blémard. Cécile, elle s'est arraché les cheveux. Pour la ronde, c'est sûr que c'est un peu plus facile. Ceci dit, comme il nous faut toujours un endroit central, et que cet endroit central, c'était aussi un endroit central du festival, là où il y a deux bars, toute la question était de savoir à quel moment on allait jouer, à quel moment ça allait être le moins dérangeant, comment s'y prendre pour que ce soit le plus silencieux, pour qu'on ne perde pas la moitié du public qui s'arrête au bar non plus à ce moment-là. Donc il y avait cette première contrainte. Et puis après, on fait en sorte que les déplacements ne soient pas trop longs pour garder une rythmique dans le spectacle. Et les lieux qu'on a fini par trouver, au final, il y a juste l'endroit du banc, mais qui finalement était très bien, qui n'était pas celui qu'on avait imaginé au départ. Mais voilà, en tout cas, l'équipe du Festival d'Holt, ils étaient super. Ils nous ont aidés à vraiment trouver toutes les possibilités et à rentrer dans notre délire aussi, parce que personne de l'équipe ne l'avait vu. Donc c'était aussi pas si simple de se projeter dans qu'est-ce qu'il nous faut, quel endroit fonctionne, quel endroit fonctionne pas. Par exemple, au-dessus de la salle des fêtes. Donc comme on était venu en 2019, moi je voyais bien tout autour, là, le parcours qu'on a fait, je voyais à peu près les endroits. Mais à un moment donné, au festival, ils m'ont proposé de monter la rue qui va à l'EHPAD. Et du coup, moi, je ne suis pas revenue en repérage. J'ai fait ça sur Google Street. Et sur Google Street, tu ne peux pas vraiment voir que ça monte ou que ça descend. Donc moi, j'ai failli dire OK. J'étais vraiment à pas grand-chose de dire, bon, si ça le fait pour vous à cet endroit-là. En remontant encore plus, il y avait un banc, donc je me suis dit, pourquoi pas. Puis finalement, en réfléchissant, mais même pas à cause de la montée, je me suis dit, non, ça fait trop de métrage. Puis en fait, on s'éloigne trop quand on est au banc. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah ouais, non, mais heureusement que j'ai dit non, parce que c'était pas possible, ni pour Cécile, ni pour le public. Enfin, c'était trop fastidieux pour rien. Il se joue pas assez de choses pendant les déambulations pour que, tu vois, tu te tapes une si grosse montée pour redescendre ensuite, quoi.
Je me demandais quelle est la part d'improvisation dans le spectacle.
C'est une bonne question. Alors, comment je peux répondre le plus justement possible? Nous, on essaye, on accorde une grande importance au texte, à l'écriture du texte, et en termes de structure dramaturgique, c'est-à-dire de comment l'histoire elle évolue, de rythme à l'intérieur de cette évolution, et de la langue aussi. Donc, en premier lieu, notre travail, il va être de restituer le texte. Et au moment de la représentation avec le public, c'est comme un peu un exercice d'équilibriste. Et il y a une part d'impro, certaine. Parce que finalement, quand les gens sont là, des fois, il y a des répliques qui ne sortent pas exactement dans l'ordre que c'est écrit. Il y a des adresses, ce qu'on appelle des adresses au public. Et puis, selon la dynamique du public, on va avoir besoin de... je vais avoir besoin, moi, en jeu, de rajouter des choses pour les emmener d'une certaine façon. Donc, il y a une part d'improvisation et dans les actions aussi. Mais ce n'est pas central, quand même. On travaille, parce que ce soit l'écriture textuelle ou l'écriture spatiale, c'est-à-dire qu'une fois que le repérage est fait, quand on arrive ici, on refait tout un tour, on se demande quelles images on veut, où est-ce que je dois me mettre pour que le public y voit quel cadre, quel... voilà. Et si je fais bien mon travail, si j'arrive à bien faire mon travail, normalement, j'ai pour mission première de restituer quand même le mieux possible ces deux écritures-là qui sont textuelles et spatiales. Mais oui, il y a une part d'impro évidente inhérente au fait de jouer en espace public, et en fait c'est ça qu'on découvre avec les années au fur et à mesure de notre travail, quoi. C'est cette espèce d'équilibre dans notre manière à nous de créer les spectacles. Il est où l'équilibre? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font beaucoup plus d'impro que nous dans leur travail, et nous on vient plutôt de l'écriture et de quelque chose de très très maîtrisé, de très voilà. Et en même temps je trouve maintenant, ouais, avec les années, que c'est aussi d'accepter et de valoriser et de comprendre l'articulation entre les deux, entre l'écriture et l'impro, comment ça marche dans notre théâtre à nous, quoi.
Et puis le rapport avec le réel, comme la représentation que tu as vue ce matin, avec on est sur la place de l'église et il y a deux fois de suite les 12 coups de midi. Et après, il y a eu la sirène des pompiers, enfin l'alarme, la sirène du mercredi, là, qui était un samedi. Et comment Cécile, par exemple, moi j'étais dans, comme je suis à la mise en scène, je suis extérieure pendant qu'elle est en train de jouer. J'essaye, peut-être tu m'as vu sillonner un peu à droite à gauche pendant les scènes, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit le moins impactée par des choses qui seraient pas cool. Tu vois, ce que moi j'estime que si je suis en train de jouer, ça va venir jouer contre et ça va pas jouer avec. Donc je vais voir les gens au bar pour leur dire y a quelqu'un qui vient jouer, qui est toute seule devant 150 personnes, voilà, est-ce que vous pouvez faire plus silencieux ou chuchoter, tout ça, par exemple. Ou ce matin il y avait des gens avec des chiens, j'essayais de retrouver les propriétaires des chiens qui se baladaient sans laisse et qui, j'avais peur qu'ils viennent dans ses jambes et puis enfin juste faire chier la comédienne, quoi. Mais par contre, les 12 coups et la sirène, je peux rien y faire. C'est pas prévu. Enfin, j'aurais pu poser la question. J'ai complètement zappé de poser la question quand on a prévu le festival. Je savais qu'on jouait sur la place de l'église. C'est pas la première fois que ça nous arrive qu'il y ait une église qui fasse ses 12 coups, quoi. Mais ou même l'Angélus, on a eu une fois. Mais là, j'ai complètement zappé. Et évidemment, quand ça a sonné à midi, je me suis dit, ben oui, ça va sonner deux fois. Et puis après, voilà. Et après, en fait, je regardais Cécile et j'étais là, elle fait avec. Et ce qui, moi, me mettait en stress pour essayer de faire au mieux pour le spectacle, finalement, elle a intégré le réel parce que c'était tellement énorme que, de toute façon, elle avait pas tellement le choix. Mais moi, j'ai senti, après, tu dis si je me trompe, mais que t'as accepté que ça faisait partie de ce qui se passait, et sa réaction aurait pu être de plein de manières. Ça aurait pu venir vraiment, merde, je peux pas jouer ma scène là. Ça peut venir complètement te confronter comme comédienne, ça peut venir t'amuser, t'as envie de vraiment partir en impro là-dessus, ça peut venir raconter quelque chose. Enfin, moi, ce que j'ai senti, c'est que Cécile, elle prenait le parti que ça vienne sur-raconter quelque chose. Et il y a des gens du public qui m'ont dit ce matin, oh, génial, enfin que eux ils avaient compris que ouais, il y avait comme pas une sentence divine, mais comme il y avait l'appel de quelque chose de plus haut, de plus noble, qui venait résonner pour elle à ce moment-là. Et moi, sur le coup, j'étais tellement stressée que j'ai pas du tout vu ça, pour être honnête. Mais j'ai juste vu que elle s'en sortait avec. Donc ouais. Ça fait partie de l'impro pour moi aussi.
C'est sûr. Même là, ce soir, à la reprise de cet après-midi, avec la pluie, c'est sûr que le réel vient, tout un tas d'éléments du réel viennent nous amener à improviser, à réagir avec. Et il y a tout pareil, encore une fois, un jeu d'équilibriste entre, on dit ce que tu, nous on dit ce que tu dois prendre et ce que tu dois pas prendre dans ce qui se passe autour, ce qui doit influer et modifier un peu ta partition, ton parcours, pour venir faire avec le réel, et voilà. Et ce qu'il ne faut pas prendre, parce que c'est plus fort que toi, ou que ça fait faire un pas de côté trop grand à l'histoire, et qu'à ce moment-là, ta mission d'acteur ou d'actrice, c'est de garder le cap de ce que tu as à jouer. Donc ça, c'est avec les années, quoi. Avec les années, puis même encore aujourd'hui, des fois, on y arrive, des fois, on y arrive moins bien, quoi. C'est ça qui est fascinant et déstabilisant avec la rue, c'est que c'est chaque représentation, c'est un nouveau spectacle, quoi, une nouvelle pièce, quoi.
Je me demandais du coup, c'est quel membre de l'équipe qui est le plus stressé pendant le spectacle?
pendant c'est elle.
C'est moi. Avant, il y a un battle. Des fois c'est elle, des fois c'est moi, des fois c'est pareil. Moi j'avoue que quand on joue la ronde, quand c'est ce spectacle, j'essaye de pas trop dire que je suis stressée avant. Là je l'ai dit aujourd'hui, mais il y a des fois où je suis hyper stressée, je le dis pas. Bon, je pars du principe que ça se voit, donc il y a pas besoin de le dire, et que je vais pas lui rajouter du stress, parce qu'il y a des fois où t'es pas trop stressée, je me dis je vais pas lui inventer du stress qu'elle n'a pas. Puis quand elle est déjà stressée, je me dis je vais pas lui rajouter. Mais non, pendant T'es dans l'impuissance, quoi. Moi, je peux m'agiter un peu à droite, à gauche pour essayer de faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de choses qui viennent jouer contre elle. Mais après, j'ai plus les clés, j'ai plus la main. J'ai l'impression que c'est comme quand t'as fait un enfant, quoi. Après, il y a un moment, il fonctionne tout seul, quoi. Et toi, tu as beau dire, hey, moi, j'aurais pas fait comme ça. Ben, il s'en fout, il fait sa vie. Et du coup, voilà, il y a des moments où je suis là, ah, c'est marrant, c'est pas ça qu'on avait dit. voilà, tout à l'heure, les fichiers qui partent pas, ça me met dans une pression qui est insurmontable. J'arrive pas du tout à baisser la pression, je suis hyper en colère, je suis hyper frustrée, je me dis que j'ai foutu tout le monde dans la merde en faisant ce spectacle. Le système il est pas assez fiable, il faut qu'elle improvise tout et n'importe quoi, parce que voilà, on a régulièrement des soucis.
Tout ça fait briser un mur construit du coup entre la technique et le spectacle, mais c'est bien passé au final.
Oui, moi je pense que, enfin, puis là c'était des conditions très particulières, quoi. Il flottait de ouf, en fait on aurait juste dû s'arrêter, enfin on n'aurait pas dû s'arrêter, on a bien fait de continuer.
Franchement, je savais
mais,
pas
aussi, moi je trouve qu'on a bien fait de continuer, mais du coup ça inclut ça aussi. Et de toute façon à ce moment là les gens mais moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que les gens y voient en rue, il n'y a pas du tout la notion de quatrième mur comme il peut y avoir dans la salle, où il y a un degré de maîtrise absolu de tous les paramètres. Nous, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est ça c'est ça qu'on aime aussi, c'est que ça met l'équipe artistique et technique à un endroit beaucoup plus proche des gens, en fait, parce que tout d'un coup, on est avec eux. Et quand ils flottent comme ça, pour moi, c'était complètement ok, quoi, de pouvoir m'adresser à elle et de lui dire on continue, on arrête. Ok, il y a un bug technique. Comment on appréhende le truc? En tout cas, pour revenir à ta question, normalement, quand même, quand tu te mets à jouer, nous, les comédiennes et les comédiens, à partir du moment où tu commences à jouer, le stress, il doit plus être là. Ça arrive, mais normalement, si on fait bien notre travail, il n'y a plus de stress. Donc après, ça reste pour l'équipe technique et puis pour la mise en scène, où eux, les pauvres, pendant, c'est rude, quoi. Parce que, et puis, quand tu joues, il y a quand même un truc d'adrénaline qui fait que, je sais pas comment dire, le stress que tu as eu avant, il est évacué par la représentation. Alors que quand tu es en mise en scène, et c'est une posture que je connais aussi, du coup, il n'y a pas ça. Donc tu gardes tout ton stress et puis à la fin de la représentation, t'as pas cette espèce de... On pourrait comparer ça un peu, c'est un peu trivial, mais on pourrait comparer ça un peu à la jouissance, quoi. Il y a un truc qui... Quand tu joues, il y a un truc qui sort, quoi. Qu'il n'y a pas à la mise en scène. Donc c'est des rôles plus ténus, plus difficiles, en vrai, je trouve.
En parlant de mise en scène, vous êtes du coup très bien adapté au terrain et dans les allers-retours qu'on fait, il y a la place de l'église va changer, des nouvelles pancartes vont apparaître. C'est pas trop difficile à synchroniser, ne pas arriver trop tôt, ne pas arriver trop tard.
Là, on a eu la chance d'être accompagné en régicide par Servant, qui a fait toute la création et qui était régisseur jusqu'à l'année dernière pour notre compagnie, donc pour ce spectacle aussi. Donc là, c'était la chance d'avoir quelqu'un qui est hyper efficace, hyper rapide, qui du coup n'a pas besoin d'être briefé vraiment. Donc moi, j'étais très surprise. Il a pu tout mettre, parce que pour le coup, entre l'arrêt sur l'église et la scène chez les parents d'Audrey, il y avait vraiment très peu de métrage. Et normalement, il y a un peu plus que ça. Et donc, et déjà, c'est court. C'est assez court pour pouvoir mettre quelques affiches avec marqué non. Et là, à chaque fois que j'ai devancé le public, moi, dans le but de lui dire arrête tout, ils arrivent. Et en fait, à chaque fois, il était là, il attendait. Genre, il avait terminé, quoi. J'étais là. C'est la première fois que ça arrive. En général, on demande à... Soit c'est moi qui le fais. Et là, c'est une petite tannée quand je suis toute seule, parce que c'est à l'oreille. J'essaye d'entendre où ils en sont. Et puis, des fois, j'arrête trop tôt, j'aurais pu mettre plus d'affiches. Ou des fois, c'est arrivé une fois où je suis encore en train d'afficher. Donc, j'enlève ce que je suis en train de faire et puis je me casse pour pas qu'on me voit. Mais, et puis c'est arrivé, enfin, des fois c'est des gens en technique qui nous accueillent, que je dois briefer. Et puis tu tombes des fois sur des gens plus ou moins rapides, qui connectent plus ou moins avec ton idée. Et voilà, ça aussi c'est un truc que tu maîtrises pas. Une fois que j'ai expliqué, il se passe bien ce qui se passe pendant la reprise, quoi.
Oui, en tout cas, c'est pas le rythme du spectacle qui est ralenti, c'est l'installation qui va être amoindrie. C'est-à-dire, moi, de toute façon, je déboule avec mon public quand c'est le moment de débouler et l'installation s'arrête avant que j'arrive, quoi. Donc, c'est ça la dimension d'adaptation.
Si on parle un peu du fond du spectacle, le point de base, c'était l'idée du Front National ou c'était plus l'idée de l'harcèlement scolaire ?
Je crois que l'idée de base pour moi, c'était la question du groupe et du rapport à la haine. En fait, c'était vraiment ça. Okay. Il y avait une envie de se dire le rapport au groupe, l'inclusion, l'exclusion et le rapport à la haine qui arrive très très vite.
Et du coup, pourquoi avoir choisi ces histoires du Front National et du harcèlement scolaire pour parler de ce sujet ?
En fait, ça venait croiser deux thématiques qui me sont personnelles. Moi, mon premier vote à moi, c'était vraiment en 2002. Enfin, c'était vraiment cette élection-là. J'avais 18 ans, j'avais pas l'âge du personnage. Lou, elle a 16 ans, elle a pas encore le droit de vote. Mais moi, c'était vraiment mon premier vote. Et ce que j'ai écrit dans le texte, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est vraiment... on était une génération à qui on avait pas mal dit qu'on avait le droit, mais surtout le devoir de voter, et que c'était hyper important, enfin voilà. Et puis à cette élection-là, il y avait énormément de candidats, et donc moi je me rappelle avoir été très contente de pouvoir choisir, de comprendre pas grand-chose sur les prospectus, mais de me dire, bah tiens... J'avais voté Taubira, j'avais trouvé cool à l'époque. et puis, bam, deuxième tour, enfin, le soir du premier tour, tu vois, Le Pen est vraiment pas du tout... Enfin, ça a été un très très gros choc. Et donc, moi, j'étais en banlieue parisienne. Bien sûr qu'on est allé aux manifs avec les copines. Il y avait celle du 1er mai, mais il y avait avant le 1er mai, il y a eu après le 1er mai. Et on y était beaucoup. Et puis, de toute façon, avant, au lycée, il y avait eu beaucoup de manifs aussi. Enfin, en gros, moi, j'ai fait beaucoup de manifs avant cette histoire-là, après cette histoire-là. Et je trouvais ça chouette, enfin, de relier l'histoire de à quoi tu dis non en groupe, à quoi il est facile de dire non, voilà, avec les copines et les copains. On allait en manif, on disait non à plein de choses, et c'était très clair, très évident. Et à côté de ça, quand j'ai lu pas mal de choses sur la question du groupe, il y avait quelque chose de très évident par rapport à le groupe d'amis. Qu'est-ce qui constitue ton groupe d'amis et quelles sont les règles tacites que tu te donnes dans ce groupe d'amis et qui vont faire que cette personne-là, elle fait pas trop partie de ton groupe, quoi, et que t'as plutôt envie qu'elle dégage, et comment tu la fais dégager plus ou moins violemment. Et je crois que c'est le propre de l'humain, malheureusement. Et j'ai voulu un peu mettre en lumière ces deux choses-là, quoi. Comment il est facile de dire non quand t'es dehors, dans la rue, avec une banderole. Quand t'es dans un groupe, il est difficile de dire non une fois que la majorité du groupe a dit qu'on allait envoyer des fumigènes ou se foutre de la gueule de quelqu'un, qu'on allait exclure cette personne. Comment t'arrives même plus à faire forcément fonctionner ton cerveau, parce que finalement, ça te rassure. Tu t'es dans un groupe, t'as des règles, au moins tu connais ton rôle, tu sais où t'es protégé par le groupe. Et comment le groupe il peut être à la fois hyper vecteur de ton épanouissement et puis de joie, et comment à la fois ce groupe, si t'y fais pas gaffe, il peut venir te faire des choses que si tu fais un pas en arrière, tu te rends compte que peut-être tu l'aurais pas fait. Et je veux croire que la politique du Front National à l'époque, mais qui est une politique maintenant qui gagne du terrain jusqu'au... Même dans la gauche, on peut entendre ce genre d'idée, de se dire que finalement, il y aurait un groupe de Français. Ça, c'est la ronde des Français. Et puis, quand t'es pas né ici ou quand tu travailles pas en tant que Français, ben, t'as rien à foutre là, ce serait mieux que tu dégages, et on va mettre des lois et des règles qui vont interdire ça et faire penser une majorité de gens que ça, ce serait bien que ces gens-là y dégagent. Et moi, je trouve que c'est d'une extrême violence. Et évidemment que j'aimerais bien pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice de comment on réfléchit collectivement à ouvrir cette ronde et ne pas exclure des gens, ne pas faire souffrir des gens inutilement. Comment on est le plus inclusif possible? Comment on essaye de construire une société des plus inclusives?
Comment ça se fait qu'une pièce de théâtre d'art de rue se retrouve en format livre? C'est pas trop compliqué à faire? C'est la première fois que je vois ça.
Bah si, ça a été du gros boulot. Ça a été des longs mois. Après, c'était une envie... c'est une vraie envie de se dire... comme on existe et qu'on défend aussi une écriture particulière... Une spécificité dans l'écriture. Nous, on défend vraiment ça avec Cécile, et dans Vivant, et dans notre spectacle précédent, nous, Les Oiseaux aussi. On trouvait que c'était aussi une manière de dire « Ouais, mais ça en fait pas moins de la littérature, ça en fait pas moins une œuvre. » Et on aime bien l'idée qu'il y ait une trace. Donc, d'où l'écriture au sol, et d'où le fait de pouvoir se procurer le bouquin. Et donc, tout ça, c'est des petites traces après que tu repars avec dans ta bibliothèque. Mais c'est aussi une manière de dire l'art de rue, c'est pas un sous-art. Non, c'est un art comme tous les autres arts. C'est énormément de travail, c'est énormément d'abnégation. C'est beaucoup de boulot. Et je sais pas, pour nous, c'est une manière aussi de dire... on existe en tant que forme qui vaut un bouquin. Et donc oui, ça a été beaucoup de boulot, surtout de se dire qu'est-ce qu'on met dans les didascalies, comment on partage le voyage, justement, comment on n'en met pas des caisses, parce que ça devient imbuvable si tu mets beaucoup trop de lignes de didascalies qui dit et on passe par là et ça ressemble à ça, et parce que nous, on en aurait des tonnes à dire, et nous, on a choisi ce cadre, et donc elle va pas au-delà de la porte rouge et pas au-delà de la porte blanche, et elle regarde pas au-delà du deuxième étage pour guider notre regard. Bon, bah non, ça, du coup, on l'a pas marqué, parce qu'on s'est dit trop technique, trop compliqué, mais on s'est mis dans un endroit particulier où on avait joué, un seul, et on s'est dit, voilà, on va se demander dans cet endroit-là quels petits éléments on va donner pour que le lecteur, si jamais il l'a pas vu, si ça tombe sur des gens qui ne l'ont pas vu, ben, ils puissent quand même se projeter dans ben, je suis en train d'avancer derrière Lou qui a un carton, il y a des cartons dans lesquels il y a du son, j'entends ça dans les cartons, voilà. Et on a rajouté après un petit flash code avec les musiques du spectacle. Du coup, dans le texte, il y a marqué qu'il y a telle ou telle musique. Enfin, du coup, je ne savais pas avant, mais on met quand même qu'il y a telle musique. Et dans le petit SoundCloud où tu arrives, moi, j'ai marqué où est-ce que c'est exactement dans le spectacle. Comme ça, je me dis, je ne sais pas si les gens le font, mais je me dis, si jamais il y en a qui veulent vraiment se taper un kiff, ils peuvent vraiment mettre play chaque fois qu'ils savent dans quelle déambulation ils sont.
Ben, merci beaucoup pour cet échange et au plaisir de vous revoir en Lozère pour un prochain spectacle peut-être.
Avec plaisir.
Oui, on est en train d'en créer un nouveau, alors peut-être, mais
voilà. Ben, merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale, on se retrouve mercredi. D'ailleurs, mercredi, ce sera aussi Open Bartas en direct à partir de 19h. Le thème, ce sera Joyeuses funérailles. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Piquons mon amour. Bonne journée, ciao.
Jamais qu'une sacrée brioche, lui il est gentil, attentionné à la côte. Moi je n'ai jamais que deux mains gauches, lui j'ai un regard et la bricole est top. Lui il a toujours ce qu'il faut dans les poches, moi je suis toujours là à gratter à mes potes. Tibidibidai, et t'as pas une clope? Lui ses amis, ben il appelle en nombre, moi j'attends que ça sonne pendant mes plombes. Moi je n'ai jamais que toujours des besoins, lui y'a tout qui tombe, ouais, tout cuit dans ses mains. Je suis encore en retard et je débarque en trombe, lui il est ponctuel avec une vie sans encombre. Du coup je me réfugie, assise dans un coin. Lui il a toujours un vieil ami qu'il rejoint.
Qu'est-ce que ça dit vieux?
Avant j'étais avec un poisse dans le genre poète et paresseux. Aujourd'hui c'est un chanceux dans le genre honnête et heureux. J'avais eu le choix entre les deux, j'aurais consulté les dieux. Mais l'un m'a largué, l'autre m'a repêché. Et on choisit pas son destin d'amoureux, hey. Jamais qu'une petite chanteuse qui avec son accordéon sait se rendre heureuse. Lui il a super groupe de rock avec des potes et un tas de groupies devant qui veulent couler. T'empêche que mon mec au plus il met la capote. Pour ma santé pas de cachet, juste goût de chiottes. Il s'occupe de son bazar, non c'est pas bizarre. Ils finiront par avaler la pile tôt ou tard. Et avant j'étais avec un poisse dans le genre poète et paresseux. Aujourd'hui c'est un chanceux dans le genre honnête et heureux. Si j'avais eu le choix entre les deux, j'aurais consulté les dieux. Mais l'un m'a largué, l'autre m'a repêché. On choisit pas son destin d'amoureux. La gueule, lui il est toujours confiant avec sa grande gueule.
Stevie de Boudaille, oui, nous sommes pas des bandes et la bêta.
Rares sont les mecs au ménage qui se débrouillent chez nous pour le rangement, c'est moi qu'on engueule. Stevie de Boudaille, du coup, mon mec qui fait la cuisine, la vaisselle. Je vais avec mes copines, puis j'y laisse le bordel. Et avant j'étais avec un poisse dans le genre poète et paresseux. Aujourd'hui c'est un chanceux dans le genre honnête et heureux. Si j'avais eu le choix entre les deux, j'aurais consulté les dieux. Mais l'un m'a largué, l'autre m'a repêché. On choisit pas son destin amoureux, hey.